Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, comme vous avez dû le lire, on va recevoir un spécialiste du comportement et de l'évolution sociale des grands primates, des grands singes. C'est-à-dire nos cousins. Et pour des tas de raisons, vous comprenez bien qu'il est intéressant de connaître le comportement de ces cousins-là. D'autant plus que pendant très longtemps, on a regardé ce type de comportement uniquement dans les zoos et pas dans la nature. C'est un peu comme si on allait voir notre comportement dans les prisons. Il est vrai que d'ailleurs, notre environnement actuel est quand même aussi une sorte de zoo. Ah oui. Par rapport à notre environnement d'origine, quand même, hein, ça a un peu changé, quoi. Il n'est pas sûr que nous soyons parfaitement adaptés au type d'environnement que nous fréquentons, quoi, hein. Surtout dans les grands centres urbains. Enfin, bon, c'est un autre problème. Aujourd'hui, on va continuer, où je vais continuer à essayer de vous parler de biogéographie. Et je voudrais essayer de vous montrer comment on peut aborder ces choses par le biais des mammifères qui sont associés aux hominidés. Parce que vous voyez bien le problème. Vous avez des hominidés en Afrique du Sud, vous avez des hominidés en Afrique orientale. Pour tout arranger, maintenant, il y en a en Afrique centrale. Demain, c'est clair, il y en aura dans d'autres parties de l'Afrique. Puis la constatation est là. L'Afrique semble bien être notre berceau. D'accord. C'est un berceau qui est un peu grand. Mais bon. Et puis, on se sent tellement bien dans ce berceau qu'on reste là. Longtemps. Longtemps. Vous avez eu ici mon collègue de Géorgie qui travaille à Dmanisi et qui vous a parlé des hommes de Dmanisi qui sont les, pour le moment, les plus anciens connus hors d'Afrique. C'est 1,8 million. Ce qui veut dire que entre 7 millions, voire sûrement un peu plus, et 1,8 million, on n'a pas eu le goût des voyages. On se trouvait bien en Afrique et on y est resté. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-on resté 5 millions d'années en Afrique ? Pourquoi a-t-on quitté l'Afrique au moment où on l'a quitté, à 2 millions d'années? Comment ça s'est passé? Je voudrais essayer de vous faire toucher du doigt comment on peut essayer d'aborder ces problèmes. J'ai pas la prétention, je n'ai pas du tout la prétention de vous apporter des réponses claires et définitives quant à ces questions. Je vais essayer, au contraire, de vous montrer comment on peut les aborder. Parce que je crois qu'il faut aborder ces questions. Alors, forcément, j'ai un certain nombre de collègues qui pensent, sûrement ont-ils raison, que l'Afrique orientale, pour certains, ou l'Afrique du Sud, pour d'autres, c'est le berceau de l'humanité, que tout part de là. Vous avez bien remarqué, comme moi, quand on met des flèches, ça part toujours d'Afrique orientale ou d'Afrique du Sud, quoi. Mais c'est sûrement beaucoup plus complexe que ça. Sûrement beaucoup plus complexe que cela. Sûrement. Alors, comment peut-on aborder ces problèmes ? Je vais essayer de vous montrer. Les questions qui se posent sont toujours les mêmes. Hein. D'où venons-nous ? Et je crois que si la réponse globale, nous sommes tous des Africains, ça me semble être acquis. Quand on veut rentrer dans les détails, ça devient beaucoup plus complexe. Vous allez me dire, mais on a déjà vu cela. J'applique la méthode que vous connaissez bien pour enfoncer un clou. Il faut donner un certain nombre de coups de marteau. Donc le problème n'est pas d'enfoncer le clou en une seule fois et de l'enfoncer mal, mais de faire en sorte que les choses aille progressivement dans le temps. Vous avez là donc, vous le savez maintenant, les provinces biogéographiques actuelles. Il y en a 6 grandes. Vous avez là les phénomènes de vicariance et de dispersion. On vous en a parlé, on vous a montré ces schémas. Je pense que maintenant, vous êtes très familier avec cela. Ça a dû jouer pour les hominidés aussi, hein. Voilà des phénomènes de vicariance et de dispersion. Voilà ce que ça peut donner, au moins en théorie. Et puis, au bout du compte, eh bien, il faut arriver à expliquer ce rameau humain qui regroupe quand même un certain nombre d'espèces. Alors, à l'heure actuelle, il y a une espèce, nous ne sommes plus qu'une seule espèce, mais comme vous le voyez, cette seule espèce, c'est quand même plus de 6 milliards d'individus, donc au moins par le nombre, on n'est pas en péril. Pour le reste, ça, c'est une autre question. Mais il faut préciser qu'il y a 18 000 ans, on était deux espèces, qu'il y a 27 000 ans, on était 3 espèces. Il y a 18 000 ans, c'était l'homme de Flores, en Indonésie. Il y a 27 000 ans, ce sont les derniers néandertaliens qui disparaissent. Et si vous remontez dans le temps, c'est-à-dire si vous remontez dans des tranches de temps autour de 3, 4, 4 millions et demi d'années, vous avez des périodes où vous avez 4, peut-être même voire 5 espèces d'hominidés. On est donc sûrement très loin de cette vision qui a été longtemps la nôtre, une lignée unique qui conduisait tout droit vers une espèce absolument extraordinaire, la nôtre. Ça s'est sûrement pas passé comme ça. Sûrement pas. Le cheminement a été plus complexe. Quand vous regardez la carte du continent africain, on voit bien que entre l'Afrique du Sud et l'Afrique orientale, mais il y a des blancs. Un de ces blancs a été comblé par les travaux de Friedman Schenk, que vous avez vu ici, qui a travaillé au Malawi et qui a montré qu'il y avait des passages entre l'Afrique orientale et l'Afrique du Sud. Quid de ces passages entre l'Afrique centrale, l'Afrique orientale, l'Afrique du Sud et l'Asie. Quand on est là en Afrique centrale, je vous assure que pour la faune associée aux hominidés qui sont connus, il est clair qu'on a des échanges non seulement avec le nord du continent africain, mais aussi avec l'Asie. Et puis, je vous laisse le soin d'imaginer tout ce qui est inconnu sur cet immense continent. Tout ce qui est inconnu. Tous ces territoires pour lesquels on n'a aucune donnée. Rien, rien. Ça veut dire, pour les jeunes générations, le travail qu'il leur reste à faire sur le terrain. Je n'ai pas répertorié la totalité des diverses espèces d'hominidés décrites ici, mais les principales y sont. Vous avez les chimpanzés qui sont là, et vous constatez donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire que entre globalement 5 millions d'années et 3 millions d'années, eh bien, vous avez là des moments où vous avez plus de trois espèces qui coexistent. Pourquoi ? Pourquoi là ? Pourquoi pas avant ? Et puis, quelque part autour de 2 millions, eh bien, on quitte l'Afrique. On s'en va vers l'Eurasie. Vous noterez naturellement qu'un certain nombre de ces espèces, notamment celles qui sont indiquées en bleu ici sur ce schéma, vous voyez qu'il y en a un certain nombre, eh bien, on ne connaît pas cette chose. Ce n'est pas autrement surprenant. Et on est toujours, absolument toujours, dans cette situation où, avec pas assez de restes, il faut vous raconter, vous dire toute l'histoire. Et donc, la vraie question, c'est savoir s'arrêter à temps, être prudent. Dire à partir de là, on n'est plus sûr de rien. Globalement, quand on va quitter l'Afrique, ce sont des représentants du genre Homo qui vont quitter l'Afrique. Sur cette image, vous avez les espèces les plus classiques du genre Homo. Cette image est à l'envers. Les plus anciens sont en haut, les plus récents sont en bas. Homo habilis, c'est autour de 2 millions d'années. Donc, sur cette image, vous avez à peu près 2 millions d'années d'évolution. Vous vous rappelez, j'imagine, ces formes, les voilà, il n'y en a pas tant que ça. Elles viennent essentiellement d'Afrique de l'Est. Vous avez des formes qui viennent d'Olduvai. Ce crâne et cette mâchoire. Cobifora est au Kenya et vous avez ces deux crânes. Certains d'entre eux ont une face plate. Vous voyez ici une face tout à fait plate. C'est ce que vous pouvez voir ici. Entre ces deux hominidés, celui qui a la face plate a été appelé Rudolphin VI, l'autre Habilis. Regardez, on est dans un chronotemps qui va pour le moment de 2,4 à 1,6 millions d'années. Je rappelle que Dmanisi, c'est 1,8. Autrement dit, on est complètement, avec les hommes de Dmanisi, dans ce créneau temps-là. Complètement. Au passage, on en a déjà parlé, mais je vous le rappelle, ces hommes à face plate ont peut-être, au bout du compte, une histoire qui reste à écrire. Parce que est-ce que le kényanthrope est bien un homme à face plate ? Je vous ai dit toutes les difficultés qu'on avait avec ce crâne qui était une marqueterie d'os avec beaucoup d'argile, donc beaucoup de difficultés à reconnaître les formes. Il n'est pas impossible que si le kényanthrope est bien un homme à face plate, eh bien, on a des hommes à face plate en Afrique centrale, avec l'Australopithèque que nous y avons décrit. L'Australopithèque d'Afrique centrale est lui aussi un hominidé à face plate. Alors, sûrement que ces hominidés à face plate représentent probablement une entité qui sera amendée, redécrite dans les années qui viennent. Mais sûrement aussi que quant à ces hominidés-là, l'Afrique centrale jouera son rôle. Il y a des hominidés à face plate en Afrique centrale, au moins à 3,5 millions d'années. Alors, regardez. Vous imaginez ce que l'on connaît. Vous prenez le continent africain et vous essayez de pointer sur le continent africain ces hominidés du genre Homo entre 2,5 millions d'années et puis 1,5 million, quoi. Vous rendez compte la densité des points. Et si on rajoute le reste du monde, on va rajouter un point de Manisi en Géorgie. Avouez que ça ne fait pas beaucoup. Alors, il est sûrement clair qu'avec si peu de données, on peut essayer de reconstruire une histoire, mais la probabilité que cette histoire ait une réalité biologique est faible. Très faible. Par exemple, en ce qui concerne l'Afrique centrale en général et le Tchad en particulier, écoutez, pour le moment, on a travaillé dans des niveaux qui vont de 3 millions d'années jusqu'à un peu plus de 7 millions d'années. Ni mon équipe, ni moi-même n'avons pour le moment travailler dans des niveaux plus récents que 3 millions d'années. C'est un travail qui reste à faire, complètement. Est-ce qu'il y a des représentants du genre Homo, Homo habilis, Homo rudolfensis au Tchad? Je n'en sais rien. À vrai dire, je vous avoue que je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Mais si on veut en trouver, faut-il encore les chercher? Et ça, on ne l'a pas fait. Alors, je sens dans vos regards un reproche. Alors, je vais vous faire une proposition. Vous savez, le principe est très simple. Quand on est dans le désert, plus on a de pères dieux qui cherchent des fossiles, et plus on trouve de fossiles. Vous imaginez, si on pouvait y aller tous ensemble, ce serait extraordinaire, hein? Et je vous promets une chose, hein, vous en trouveriez, parce que il y en a beaucoup. Eh bien non, on ne l'a pas fait parce que on est descendu vers le bas. C'est un choix que j'ai fait en son temps, que j'ai fait en 1996. J'aurais pu faire le choix d'aller vers le haut. Oui, j'aurais pu faire ce choix-là. Si j'avais fait le choix d'aller vers le haut, aujourd'hui, vous me diriez, ben oui, mais si vous aviez été vers le bas, vous auriez peut-être trouvé tout maille. Simplement, il faut laisser le temps au temps. Et je vous rappelle quand même, parce que c'est important, que les travaux ont commencé en Afrique australe en 1924. Les travaux en Afrique orientale, la première découverte en Afrique orientale, c'est 1959. C'est-à-dire que rien que pour l'Afrique orientale, c'est plus d'un demi-siècle. Les travaux en Afrique centrale, je n'ose pas vous dire quand ça a commencé. Ça a commencé en 1994, au Tchad. Donc, vous voyez, ça vient tout juste d'arriver. Alors, néanmoins, si on regarde ces six points, il y en a un qui est tout seul au Malawi, c'est celui qui a été mis en place par mon collègue Friedman Schrenk de Mayence, du Seckenberg de Mayence. Et ce point isolé là en Afrique du Sud, dans la grotte de Sterkfontein, c'est mon ami Philippe Tobias. Et alors, il y a quand même quelque chose de troublant. Regardez, il y en a quatre, là, qui sont quand même relativement près les uns des autres. Est-ce que ça signifie quelque chose? Alors, sûrement, ça signifie que là, on a travaillé de manière plus intense. C'est vrai. Mais est-ce que c'est là toute l'explication? J'en suis pas sûr. Vous allez voir, on peut peut-être trouver une autre explication à cela. Ici, le point qui est là, en rouge, c'est de Manizy. Vous avez vu que mon collègue de Manizy, il ne l'affirme pas, mais il émet cette hypothèse néanmoins qu'il y aurait eu une première migration hors d'Afrique, puis un retour en Afrique. Vous vous souvenez, hein, il a dit ça. Bon, peut-être, peut-être. Alors, pour essayer de vous faire toucher du doigt ces choses, je vais prendre un exemple sur un groupe de mammifères que vous connaissez bien, les hippopotames. Tout le monde connaît les hippopotames. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, c'est Jean-Renaud Boisserie. Vous avez rencontré ici Jean-Renaud Boisserie, il est venu vous parler des recherches qu'il conduit dans la vallée de l'Omo. Quelque part, Jean Renaud est dans la filiation paléontologique le successeur dans la vallée de l'Omo de Camille Arambourg, Yves Coppens, Jean Renaud Boisserie. Je parle du côté français. Parce que du côté américain, il y a eu Clark Howell, qui a travaillé à la fois avec Arambourg et avec Coppens. Jean Honneau est un de mes anciens étudiants et je lui avais confié en thèse l'étude des hippopotames. Lui qui se destinait à vouloir étudier les hominidés, il avait trouvé ça un peu bizarre. Alors, pourquoi les hippopotames ? Parce que, comme les hominidés, ils sont liés à l'eau. Ils ont besoin d'eau. Donc, encore plus d'ailleurs, ces hippopotames sont liés au réseau hydrographique. Et il est clair que les hominidés ont un lien particulier avec le réseau hydrographique aussi. Et vous allez voir comment, en essayant de comprendre l'histoire des hippopotames, on peut retrouver des analogies avec l'histoire des hominidés. Alors maintenant, je parle des hippopotames. Ces hippopotames, c'est un groupe plus ancien que les hominidés. Vous voyez, ils sont connus au moins dès 20 millions d'années en Afrique. Là, c'est ce rond brun du côté du Kenya. Ils sont là. Et de là, aux alentours de 8.5 millions d'années, vous voyez, ils vont vers l'Afrique du Nord. Ça vous donne les domaines de répartition dans les tranches de temps. On arrive à 7 millions d'années, entre 7 et 5 millions d'années. Dans cette période-là, on a des hominidés. Entre 7 et 5 millions d'années, on a au moins 3 hominidés, Toumaï, Hororin, Ardipithecus. Regardez ce qui se passe. On a quelque chose en bleu, là, qui est spécifique à la partie Afrique orientale, plaque arabique. C'est à part. On a quelque chose qui est à part en Afrique du Sud. Et regardez ces deux gros points noirs, on a le même genre en Afrique et en Asie. Ces hippopotames, ils sont originaires d'Afrique, ça veut dire que vous avez une migration vers l'Asie. Ça veut donc dire qu'à cette époque-là, vous avez des passages possibles entre l'Asie et l'Afrique. Et l'Europe, regardez ce point noir ici. Donc, entre 7 et 5 millions d'années, vous avez un certain nombre de phénomènes de dispersion et d'isolement et je voudrais que vous regardiez bien. Vous avez l'Afrique centrale qui est là. Vous avez l'Afrique orientale et la plaque arabique qui sont là. Entre les deux, il n'y a pas échange d'hippopotames. Les formes qui sont en Afrique centrale et les formes qui sont en Afrique orientale sont différentes. Elles appartiennent à des provinces biogéographiques différentes. On continue à remonter dans le temps. Voilà une image qui est entre 5 millions et 2,5 millions. Alors, on retrouve ce genre, ce gros point noir, ce genre asiatique, très bien. On retrouve les formes d'Afrique du Sud, très bien. Et regardez, en Afrique centrale, on a un rond vert, Sauterium, bon, peu importe son nom. Mais on a là un genre particulier qu'on a décrit au Tchad. Et alors, regardez ce qui se passe en Afrique orientale. 1, 2, 3, 4. On a multiplication du nombre de genres. On est entre 5 millions et 2 millions et demi. Je voudrais vous rappeler que tout à l'heure, quand on a regardé l'ensemble des représentants connus de la famille humaine, je vous ai dit entre 5 millions et 3 millions, on a des moments où on a plusieurs espèces d'hominidés qui coexistent. Étrange similitude. Étrange similitude. On remonte dans le temps, 2,5 millions à 250 000 ans. C'est le moment où nous allons quitter l'Afrique. C'est ce que font aussi les hippopotames. Regardez. De fait, quand vous regardez l'évolution de ce groupe, alors, qui forcément est mieux documenté, je parle des fossiles, que le groupe des hominidés. C'est plus facile de trouver un crâne d'hippopotame que de trouver un crâne d'hominidé fossile. C'est plus facile de trouver une dent isolée d'hippopotame, et pour cause, ils ont en moyenne cette taille, qu'une dent d'hominidé fossile qui est de l'ordre du centimètre de longueur. Bon, c'est étrange cette similitude. Regardez. On peut aller plus loin dans cette interprétation. Nous revoilà en Afrique. Voilà la plaque arabique, l'Afrique orientale, le Grand Rift. L'Otagam est un site connu, célèbre d'Afrique orientale. C'est même un des rares sites d'Afrique orientale qui va dans des niveaux d'âge équivalents à ceux de Toumaï. La Lower Nahuatl Formation, à l'Otagam va jusqu'à 7 millions d'années. C'est donc pour ça qu'on l'a mis là. Et on a une bonne faune. Malheureusement, il y a juste un reste peu complet d'hominidés. TM, Toros Menala, c'est le site ou la série de sites, il y a 500 gisements de cet âge-là, ce sont les sites tchadiens d'âge autour de 7 millions d'années. L'un de ces sites, non, trois de ces sites ont livré des restes de cette hominidée. En termes d'hippopotame, il n'y a pas de contact entre TM et l'Otagam. Les réseaux hydrographiques ne passent pas. Passent pas pour, en ce qui concerne les hippopotames, mais ils ne passent pas non plus en ce qui concerne, vous savez, ce groupe dont je vous ai parlé un certain nombre de fois, le groupe frère des hippopotames, qui est le groupe des anthracotérides, les anthracotères, qui sont des animaux potamophiles, des gros mammifères aussi, passent pas non plus. Inconnu en Afrique orientale à ce moment-là. Par contre, l'hippopotame connu à l'Otagam est connu à Abu Dhabi. Et donc, vous avez là, entre l'Afrique orientale et la plaque arabique, vous avez une province biogéographique où l'on retrouve les mêmes hippopotames. Par contre, de Toros Menala, des sites tchadiens, ces hippos, ils remontent vers le nord, on les connaît en Libye, dans le bassin de Sirte. Ils repassent en Asie et on en connaît en Europe. Vous avez des passages possibles vers le nord. Vous conviendrez avec moi que nous sommes dans un créneau temps moins 8, moins 6. Si vous vous rappelez ce que nous avons dit pour les hominidés, là vous avez Toumaï, il y a 7 millions d'années, et puis là en Afrique orientale, vous avez en Éthiopie Ardipithecus Kadaba, au Kenya, Aurorin tugenensis. Eh bien, ces deux derniers hominidés appartiennent à la même bioprovince, même province biogéographique, l'autre, non. C'est séparé. C'est séparé. Sûrement faudra-t-il en tenir compte à un moment ou à un autre. Si je résume, vous avez donc cette province qui s'isole et quand je vous dis qu'il y a isolement, ce n'est pas uniquement les hippopotames ne sont pas les mêmes de part et d'autre. À l'ouest, on connaît des anthracotères, à l'est, il n'y en a pas. Mais je veux dire qu'à l'Otagam, par exemple, il y a beaucoup de carnivores fossiles qui sont connus. Eh bien, les carnivores de l'Otagam ne sont pas les mêmes carnivores que ceux qui sont connus au Tchad, à Toros Menala. On a là la preuve d'une première dispersion hors d'Afrique. Par l'Afrique du Nord. Attendez. Je vous vois inquiète et inquiet. Je n'ai pas dit que Toumaï était passé en Asie ou en Europe. Mais je pense que les voies de passage étaient possibles. Je ne crois pas qu'il soit passé, et si vous voulez mon avis personnel, il n'est pas passé pour des raisons climatiques. Vous avez des limites latitudinales, climatiques, qui font qu'il ne pouvait pas aller au nord au-delà d'eux. Mais le fait est là, on peut passer, ça passe. Alors, vous comprendrez, que mon équipe et moi-même sont parfois surpris quand on lit, y compris dans les revues les plus prestigieuses, que Sahelanthropus, c'est la même chose qu'Ardipithecus. Peut-être bien, mais avouez que quand on regarde comment se passent les choses sur le terrain, ce n'est pas ce qui vient à l'esprit a priori. C'est sûrement beaucoup plus compliqué que cela, beaucoup plus complexe. L'autre remarque, mais ça, c'est relativement bien connu, c'est que le Sahara, c'est ça, le Sahara. Le Sahara, il faut bien voir ça. Il faut que vous voyez ça, le Sahara, comme un désert intermittent. Géologiquement parlant, le Sahara, tous les quatre matins, c'est vert. Et je vous assure, on n'est pas dans une période humide, on est dans une période aride à l'heure actuelle. Mais j'ai eu l'occasion d'assister à quelques pluies dans ce désert, notamment au Tchad. Ça ne tombe pas longtemps, hein. Ça ne tombe pas longtemps, c'est moins de 10 minutes. Le temps que ça tombe, ça fait une bonne douche. Mais après, c'est étonnant, étonnant. Tout devient vert. Je me souviens une année être arrivé après cette saison des pluies, entre guillemets. C'était incroyable. Vous aviez des dromadaires qui étaient dans la prairie, là où on ne connaissait que du sable. Donc, le Sahara n'est pas une barrière infranchissable. Géologiquement parlant, sûrement pas. Si on continue notre analyse, on est rendu entre 6 millions et 2 millions et demi. On a mis 2 millions et demi parce que 2 millions et demi, il y a là une altération climatique importante, plus sec, plus froid. Sont figurés en Afrique orientale le rift occidental, le bassin du Tirkana et l'Afar. Ces bassins-là, pendant cette période-là, résultent du rifting, du phénomène de rifting. Et pendant que joue le rift, il se crée en Afrique orientale un certain nombre de petits bassins isolés les uns des autres et situés à des altitudes différentes. Ce phénomène géologique va être, à mon sens, pour beaucoup de groupes, le moteur de l'évolution. Si vous prenez, par exemple, le dernier hominidé qui vient d'être décrit par mon collègue et ami, le professeur Tim White, de l'Université de Californie à Berkeley, eh bien, Ardipithecus ramidus, on le connaît finalement que dans un petit bassin. Et comme par hasard, il est associé à une faune qui indique une faune d'altitude. On est typiquement dans ce schéma. Rifting, surélévation, formation de petits bassins, isolement, et dans certains cas, ça va à la spéciation. Effectivement, vous assistez en Afrique orientale à une fragmentation de la grande province qu'il y avait avant, afro-arabique, et création de petits bassins isolés les uns des autres. C'est extraordinaire, dans chacun de ces bassins, vous avez un genre d'hippopotame différent, un genre différent. Mais ce qui joue pour les uns jouera sûrement pour les autres. Vous allez toujours maintenant vers une plus grande aridité dans le sens de paysages de plus en plus ouverts. C'est le cas ici à KL. KL s'est collé. Ce sont des sites qui sont autour de 4 millions d'années au Tchad et qui sont plus secs. Beaucoup plus sec. On continue. On est rendu à plus récent que 2 millions et demi d'années. Eh bien, vous voyez apparaître là le genre hippopotame. Pour la première fois, Hippopotamus apparaît. C'est le genre qui existe à l'heure actuelle. Et regardez. Cet hippopotamus, il va en Afrique du Sud, il va en Afrique centrale, en Afrique orientale, il passe en Asie, il passe en Europe. Comme par hasard, c'est le moment où les hominidés quittent aussi l'Afrique. Étrange similitude, non? Bon, ce travail est en cours, c'est pas moi qui ai fait le travail, je répète, c'est le travail de Jean-Renaud Boisserie. Et je pense qu'il y a là des choses intéressantes. Alors, je vous ai montré ça. Non pas, enfin, dans un contexte particulier. Je rentre d'Éthiopie. Et le temps que j'étais à Addis Abeba, j'ai rencontré Jean-Renaud Boisserie et on a beaucoup parlé de biogéographie, d'hippopotamidés et d'hominidés. Et de fait, je viens de vous dire aujourd'hui, non pas la totalité de ce qu'on a dit, mais une partie des conversations que nous avons eues autour de ces deux groupes. Alors, ne voyez pas cela comme une fin en soi. Voyez cela plus comme la possibilité d'une approche nouvelle. Nouvelle au sens où elle a été peu ou pas employée pour les hominidés. Et qui sûrement, compte tenu des analogies, cette approche est porteuse d'éléments qui permettront de mieux comprendre ce qui se passe pour nous. Parallèlement, vous voyez que plus récemment, vous avez un retour vers l'Afrique des hippos. Au passage, je voudrais vous faire remarquer autre chose. Alors là, c'est presque... Je vais presque faire un crime de lèse-majesté. Personne n'accepterait de publier ce que je vais vous dire maintenant. Même pas l'almanach de Brioude en Haute-Loire. Je ne vous dirai pas pourquoi je prends cet exemple. Mais ça existe. Dans tout ce que je viens de vous montrer, si vous avez bien regardé, l'Afrique orientale s'est comportée comme un cul-de-sac. N'est-ce pas? Oh là là! Oh là là! Quel vilain mot! Pour les tenants d'une Afrique orientale d'où tout vient et d'où tout part. Or, de fait, si l'on regarde, eh bien, le seul moment où il y a des choses qui sortent d'Afrique orientale, c'est à partir de 2,5 millions d'années. Mais dans toute la période qui nous intéresse avant, on a l'impression, je n'ai pas dit la certitude, n'allez pas me créer plus d'ennuis que j'en ai. On a l'impression que eh bien, cette partie de l'Afrique reçoit des choses ou n'en reçoit pas, mais est isolée du reste. À partir de 2,5 millions, ça s'ouvre. Cette ouverture va se traduire par les hommes de Dmanisi. Dont vous avez entendu parler déjà, qui sont donc datés à 1,8 million. Mais c'est clair, on va trouver des formes plus anciennes que de Manizy. Potentiellement, on peut trouver des choses à partir de 2,5 millions d'années au moins. Et quand on les trouve à 1,8 million, ça veut dire que bah, il y en a déjà beaucoup et que c'est pour ça qu'on les trouve. On reparlera de cela la semaine prochaine. J'espère que je suis arrivé à vous montrer comment on peut percevoir certaines choses à partir des groupes associés aux hominidés. Je vous remercie.